France Info.
Bienvenue à tous sur le plateau des Informés de France Info. Si vous n'avez rien suivi de l'actualité du week-end, vous êtes au bon endroit. Mes quatre invités vont se faire un plaisir de vous remettre à niveau avant le début de la semaine. Bonsoir Virginie Leguet.
Bonsoir.
Chef adjointe du service politique de Paris Match. À vos côtés, François Hernenwein, rédacteur en chef à La Croix. Hervé Gaucho, rédacteur en chef du service économie et sociale de France Télévisions.
Bonsoir.
Et Dominique de Montvallon, éditorialiste politique. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Au sommaire des Informés ce soir, des mines fatiguées mais soulagée, celle des 630 migrants de l'Aquarius enfin arrivé en Espagne. Le navire des SOS Méditerranée a accosté ce matin dans le port de Valence. La fin d'un feuilleton qui a mis au jour les divisions au sein de l'Europe sur le dossier de l'immigration. Comment harmoniser les politiques européennes d'accueil des migrants? La France prend-elle suffisamment sa part? Nous poserons la question à nos invités. Le gouvernement dépense-t-il trop d'argent pour les pauvres? Après les propos d'Emmanuel Macron sur le pognon de dingue investi dans la protection sociale, on va essayer de décrypter la politique sociale du gouvernement. On parlera aussi des dissensions, voire de la crise au sein des Républicains. Laurent Wauquiez de plus en plus isolé. Et puis l'américain General Electric qui va devoir payer des pénalités pour ne pas avoir créé assez d'emplois en France. C'est Muriel Pénicaud qui l'a annoncé ce matin. Il aura donc fallu 7 jours et une odyssée de 1500 km pour que 450 hommes, 80 femmes, 89 adolescents et 11 enfants de moins de 13 ans qui ont fui le continent africain soient autorisés à mettre le pied sur le sol européen. L'Aquarius des SOS Méditerranée a donc débarqué ses migrants en Espagne ce matin dans le port de Valence, faute d'avoir l'autorisation de débarquer en Italie et à Malte. La fin d'un feuilleton qui a divisé l'Europe sur la question de l'immigration et qui a fait réagir Jean-Luc Mélenchon. C'était ce midi dans Questions politiques sur France Info.
J'ai la honte de penser qu'on a pu abandonner ces pauvres gens, ballottés entre trois pays qui se disputent, et pour finir, c'est les Espagnols qui les accueillent. Le dossier de cet immense exil forcé, qu'est l'immigration, parce qu'il ne faut jamais oublier que ça, hein. C'est un exil forcé, les gens ne partent pas la fleur au fusil, tout contents de s'en aller. Hein. Il est complexe, et je veux bien en parler, mais il y a un moment où la complexité s'arrête devant le devoir d'humanité. La vraie bonne manière de faire, c'est de faire que les gens ne partent pas. Donc demandez-vous, que faire pour qu'ils ne partent
Emmanuel
pas
Macron.
Tous ces gens ne sont pas des inconnus, on sait de quel pays ils partent. Et une fois qu'ils sont en route, vous n'avez pas d'autre choix, à part la cruauté absolue et totale qui consiste à les rejeter à la mer, comme vient de le faire le gouvernement d'extrême droite italien, hein, ou de faire le bon bourgeois qui regarde ailleurs, comme fait le président de la République française, en attendant que tout ça se règle tout seul, vous n'avez pas d'autre choix que de secourir les gens.
Jean-Luc Mélenchon ce matin sur France Info. Alors on va revenir sur la position de la France dans cette affaire, mais d'abord le leader de la France Insoumise qui qualifie de honte ces tergiversations européennes sur l'Aquarius. Est-ce que les capitales européennes ont été à la hauteur de cet enjeu, François Hernenwein?
Certainement pas, et ce que révèle la crise, c'est l'impuissance européenne à prendre à bras-le-corps la question migratoire. Alors, l'avantage de la provocation scandaleuse de l'Italie, c'est qu'elle remet la question sur la table européenne, et j'espère que, quand il s'agira au Conseil européen à la fin du mois, de commencer à réfléchir sérieusement à la question des migrations, on arrivera à imposer des solutions acceptable et coopérative entre les différents pays européens. La solution, il n'y en a qu'une, c'est de créer une agence européenne des migrations qui prendra, comme aux États-Unis, le dossier en main et appliquera une politique, la politique de l'agence, après un compromis passé entre les différents pays européens. Et là, les dissidents de l'Est, etc., si je puis dire, n'auront qu'à s'incliner s'ils font partie de l'ensemble européen.
Mais comment peut-on mettre d'accord des pays aux réalités nationales si diverses? Un gouvernement mené par l'extrême droite en Italie, un gouvernement de gauche en Espagne. Comment mettre tout ce monde d'accord, Hervé Gaucho, à votre avis?
C'est effectivement tout le problème que vient de souligner François. C'est que depuis la fin de Mare Nostrum, l'Europe est vraiment mise à l'épreuve d'une politique migratoire commune à l'intérieur de ces frontières extérieures, si j'ose dire, des frontières de Schengen, parce que c'est un peu ça le problème. Il y a un affrontement Alors, il y a l'affrontement entre les populistes en Hongrie, en Pologne, en Italie, on en voit même maintenant en Allemagne, etc. Et puis, il y a et ceux qui sont plus accueillants. Et puis, il y a l'opposition entre ceux qui sont directement concernés, qui ont une frontière sur la mer, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, etc., qui reçoivent beaucoup de migrants et qui veulent partager, si j'ose dire, la responsabilité d'accueillir tous ces migrants. Et là, c'est vrai qu'on a tous quelque chose à entendre. La France y compris, qui a fini effectivement par bouger sur le dossier de l'Aquarius. Mais il faut se rappeler quand même qu'en 2016, la France était engagée à récupérer, si j'ose dire, à accueillir 30 000 migrants. Et il y en a eu moins de 6 000 qui ont été réellement accueillis. Donc je pense qu'on a tous à entendre quelque chose là-dessus.
Virginie Le Guay, François Lonnevin parlait d'une agence européenne. Est-ce que c'est possible, dans ces conditions, de créer une telle agence ?
Moi, je trouve mon camarade François très optimiste. Je pense que c'est absolument impossible. Il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas d'entente. Les pays qui sont réticents à accueillir des migrants sont extrêmement déterminés dans leur position, et y compris l'Allemagne, d'ailleurs, qui est très en arrière de la main. Et Angela Merkel est dans une telle faiblesse politique qu'elle n'arrivera pas à entraîner les autres membres de sa coalition. Donc, tout le monde a le pied sur le frein. Et Emmanuel Macron lui-même, d'ailleurs, on voit bien, d'ailleurs, comment il a géré ce dossier. Il a commencé par se taire. Quand il est intervenu, c'est pour dénoncer l'irresponsabilité de l'Italie, ce qui a été fort malvenu.
Pour féliciter l'Espagne et pour dire que la France prendrait sa part.
Pour le dire, vraiment une extrémiste est poussée par une espèce de mouvement qui sentait d'indignation dans son propre pays. C'était très, très politique. Mais le lendemain, l'Italie refusait un nouveau bateau. Donc ça va se reproduire inlassablement et l'Europe est incapable d'arriver à une solution commune, de mon point de vue. Incapable. Dans l'état actuel des choses.
Dominique de Montvalon, en un mot, que peut-on attendre de la visite d'Emmanuel Macron en Allemagne mardi ? Le couple franco-allemand peut-il être à l'initiative de...
J'espère d'abord que Emmanuel Macron rencontrera à cette occasion une chancelière allemande confortée dans son pouvoir et non pas affaiblie par le défi qui risque d'être explosif et d'avoir de grosses conséquences.
Sa coalition est en danger.
Sa coalition est en danger.
La question de l'immigration risque de faire éclater la coalition.
Et alors il y a l'Aquarius, pour dire un mot de la situation, il y a l'Aquarius en tant que tel, avec des chaos, des attitudes variables et pas toujours d'une noblesse inouïe et d'une réactivité très grande des différents pays européens concernés. Mais enfin bon, l'Aquarius est arrivé et les passagers de l'Aquarius sont pris en compte. Mais la situation aujourd'hui est explosive. Elle est explosive. Ce qui s'est passé en Italie après ce qui s'est passé en Allemagne peut se passer demain chez nous ou ailleurs. Et il y a une fragilité de l'Europe incapable de répondre aux défis des migrations internationales, mais qui est quand même un problème énorme. D'autant plus que je veux juste ajouter ceci.
On va continuer à en parler dans une minute simplement. Après l'info, 20h10, Mélodie Pépin.
Une femme de 24 ans, toujours en garde à vue ce soir, après avoir agressé au cutter deux personnes dans un supermarché du Var, à La Seyne-sur-Mer ce matin. Elle a dit que c'était Allah qui lui demandait de faire ça, selon le procureur. Les enquêteurs cherchent à savoir si elle est radicalisée. Elle présente des troubles psychiatriques avérés, a indiqué le procureur. Le gouvernement prévient General Electric. Le groupe américain devra payer 34 millions d'euros d'amende s'il ne respecte pas ses engagements. 1000 emplois créés en France d'ici la fin de l'année. General Electric, qui a racheté Alstom, a annoncé qu'il ne pourrait pas honorer sa promesse. 400 000 km de routes vont passer à 80 km/h au 1er juillet. C'est officiel, le Premier ministre a signé le décret aujourd'hui. Sont concernées les deux fois une voie sans glissière de séparation, soit 40% du réseau. Un nouveau nom pour un État européen, la Macédoine du Nord, va remplacer l'actuelle ex-république yougoslave de Macédoine. Les Grecs et les Macédoniens ont signé un accord historique aujourd'hui après des années de querelles. Les Grecs reprochant à Skopje de s'approprier l'histoire de la Macédoine antique incarnée par Alexandre le Grand. Et puis la surprise du jour au mondial de football, c'est l'Allemagne qui tombe d'entrée de jeu. Les champions du monde en titre vaincus par le Mexique 1-0 tout à l'heure. Qu'en sera-t-il du Brésil, autre grand favori? Il affronte en ce moment la Suisse 0-0.
France Info. Les informés, Pierrick Bonneau.
Et on évoque donc ce soir l'arrivée de l'Aquarius en Espagne après une semaine d'épopée un peu folle. Dominique de Montvalon, je vous laisse poursuivre sur cette impossibilité européenne.
Juste ajouter une chose. Qu'il s'agisse des passagers de l'Aquarius ou plus globalement de tous les migrants qui frappent, si j'ose dire, à la porte dans des conditions parfois dramatiques, qui frappent à la porte de l'Europe, il s'agit de savoir si on accueillera demain uniquement ceux qui sont des réfugiés politiques, j'ai envie de dire, dûment reconnus comme tels, Ou si donc on opérera, le mot est horrible, mais une sorte de tri, enfin de partage avec ceux qui ne sont que, entre guillemets, des migrants économiques. La question que je pose derrière, j'ai pas la réponse et elle me paraît pas évidente, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas des réfugiés économiques et qu'il s'agisse des passagers de l'Aquarius comme des autres qui ont vocation, c'est purement théorique pour le moment, mais c'est souvent évoqué, qui ont vocation en principe à revenir dans leur pays. Qu'est-ce qu'on fait ?
Et on va écouter ce qu'en pense Marine Le Pen à ce sujet. Hein. La France accueillera au cas par cas ces migrants. Ça veut dire qu'ils ne seront sans doute qu'une dizaine à venir chez nous. Et pourtant, ça fait peur à Marine Le Pen. Elle a dit sur CNews ce matin.
Je suis évidemment extrêmement inquiète parce que j'ai entendu le Premier ministre français indiquer qu'une partie d'entre eux allait arriver en France. Que le signal qui est donc lancé est le signal de l'ouverture. À nouveau, on continue de nos frontières nationales au moment où l'Italie, je crois, avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'efficacité, dit maintenant c'est terminé.
François Arnenwein, elle est surjouée, cette crainte de Marine Le Pen ? Ça fait partie du registre de l'extrême droite ?
C'est son registre. Elle a fait sa prospérité relative arrêtée à la présidentielle sur cette thématique-là. Et je ne vois pas demain, si elle continue à creuser ce sillon, comment son discours sera entendu. Les craintes existent, c'est vrai, il existe partout en Europe. Une crainte forte de la pression migratoire. Mais aujourd'hui, c'est ça que je voudrais indiquer, un certain nombre de mes confrères, Virginie tout à l'heure, a expliqué qu'en Europe, c'était très compliqué d'avancer à cause des divisions. Donnons acte que Virginie a raison, aujourd'hui, les divisions sont telles et n'esquissent pas le commencement du début de la mort.
Ça veut dire que ça va se reproduire, ce genre de cas ?
Mais allons plus loin, allons plus loin. La construction européenne a conduit le continent à connaître la paix et la prospérité depuis la dernière guerre mondiale. C'est quand même énorme. Et on ne va pas laisser cet acquis formidable buter sur le réalisme des uns, le cynisme des autres. La question de l'agence européenne, c'est la capacité des gouvernements européens à se donner les outils pour prendre en main la question migratoire. Si tout le monde baisse les bras, si tout le monde a peur, si tout le monde s'enferme dans ses craintes, on sera rattrapé autrement par cette question migratoire. Il y a une question qui a été posée. Aujourd'hui, frappe à nos portes non seulement des gens qui peuvent revendiquer le statut de réfugié politique,
ils sont nombreux,
mais aussi des gens qui fuient la misère ou la désertification. Et d'ailleurs, il y a une question complexe, et j'ai envie de la poser parce qu'elle me semble intéressante. Est-ce que les réfugiés climatiques, ceux qui quittent leur terre parce que leur terre s'assèche, parce qu'ils ne peuvent plus les...
Et ce sera le défi des prochaines décennies. Hein.
Voilà, et ça sera le défi des prochaines décennies à cause du réchauffement climatique. Est-ce qu'il faut les considérer comme des réfugiés économiques parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur terre, ou est-ce que ce sont des réfugiés politiques parce que d'une certaine façon, la situation qui leur est faite est le produit de la politique industriel des grands pays industrialisés. C'est une question terrible et ces classifications brinque-ballantes ne permettent pas vraiment d'aborder la question de la pression migratoire.
Est-ce qu'il faut aller, Hervé Gauthier, comme le suggère le gouvernement, dans ces pays d'où provient l'immigration pour aller sélectionner les migrants, les demandeurs d'asile, comme l'appelait encore ce matin Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement?
Non, ça me paraît vraiment quelque chose d'assez compliqué. Enfin, on va faire comment? On va faire des centres de transit dans les pays? Enfin, ça évoque quand même des choses. Enfin, je vois pas très très bien sous quelle forme on peut faire ce
mission de protection comme il y en a eu ces derniers mois, au Tchad, au Niger.
Enfin, je sais pas. Je trouve que il y a quand même des solutions un peu bizarres qui émergent face à une véritable tragédie. Hein. Il y a eu quand même 3100 personnes qui sont mortes morte ou disparue en mer l'année dernière en Méditerranée. Imaginez les centres de tri, je trouve ça absolument incroyable. Puis je trouve que c'est une réponse à une mauvaise question posée. Quand Marine Le Pen elle compare l'attitude de la France à celle de l'Italie, eh ben parlons de chiffres qui vont venir démonter un petit peu tout ça. En 2017, si on compte en pourcentage de la population, le nombre de régularisations en France, c'était 0,06% de la population. Voilà. Eh bien, en Italie, c'était 0,06% de la population. Donc, voilà, on est absolument sur un pied d'égalité. Il n'y a pas les bons populistes qui savent fermer les frontières et puis qui savent avoir une politique de fermeté. Ils ont surtout une politique extrêmement cynique. Mmh. Et puis, derrière les autres. Derrière tout ça, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on voit bien qu'il y a, au-delà de l'attitude très cynique de l'Italie, on l'a encore vu, il y a aussi un risque politique. Pour les grandes démocraties, on le voit. Là, les images touchantes qu'on a vues aujourd'hui des migrants débarquant de l'Aquarius qui sont accueillis par la Liesse, l'Espagne qui s'est mobilisée, ça fait quand même écho à ces images qu'on avait vues en Allemagne il y a quelques années, et où Angela Merkel avait porté ce mouvement populaire d'accueil de ces premières vagues migratoires, et elle l'a payé très cher politiquement, et je pense que tout le monde s'en souvient.
Le projet de loi Asile et Immigration arrive mardi à l'Assemblée. Quel impact cet épisode de l'Aquarius aura-t-il sur la politique intérieure française? Virginie Le Guay, peut-être.
Je voudrais revenir sur ce que mes camarades ont dit tout à l'heure.
Répondez à ma question.
Attendez, non, mais je voudrais quand même dire quelque chose. Qui est d'ailleurs une façon de répondre à votre question. Ce que dit Marine Le Pen, elle le dit avec beaucoup d'assurance, mais c'est entendu par les Français. De même, ce que disent le chef du gouvernement italien, c'est entendu par les Italiens. Je crois qu'on ne se rend pas compte que si ces populistes, comme on les appelle de façon assez pudique, ont été élus, c'est parce que les peuples craignent la pression migratoire. Et ils le craignent de plus en plus. Et Emmanuel Macron, ses hésitations, son silence, puis sa façon de dire, lui aussi, il est sous la pression de ce qu'il entend de l'opinion publique française.
Ça veut dire que ce populisme pourrait prendre également en France ?
Je rappelle que les premières élections qui arrivent sont les élections européennes, que la dernière fois, le Front National est arrivé en tête, et que là, c'est le pari de Marine Le Pen, c'est d'arriver de nouveau en tête devant Emmanuel Macron. Emmanuel Macron l'a parfaitement compris, et si lui-même n'arrivait pas en tête lors de ces prochaines élections européennes qui ont lieu dans un an, là, franchement, on pourrait se poser des questions très sérieuse. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans le rêve, là. On est dans des poussées électorales extrêmement fortes, qui sont très, très visibles en ce moment en Europe. Et ces poussées électorales, elles sont notamment dues à la crainte des peuples de l'arrivée des migrants et à l'impuissance de l'Europe depuis des années de gérer ces questions-là. Et ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de la conférence de presse, ouais, renforcer Frontex, créer des centres d'accueil dans les pays de départ, mais franchement, c'est de la bibine, c'est rien. Et rien n'est réglé, rien n'a avancé et rien n'est acquis.
Valérie Le Guay, on va voir si la politique sociale du gouvernement, c'est également de la bibine. Après l'info à 20h20, Mélodie Pépin.
Les migrants de l'Aquarius vont passer leur première nuit à terre en Espagne, dans des hôpitaux ou des centres d'hébergement. Après une semaine d'errance en mer, 450 hommes, 80 femmes et une centaine de mineurs arrivés ce matin à Valence. Fatigués mais soulagés, ils ont été pris en charge par des bénévoles. Une fusillade aux États-Unis a fait une vingtaine de blessés cette nuit. Un suspect est mort, un autre a été arrêté. Plusieurs personnes ont ouvert le feu pendant un festival d'art nocturne. Pas de précision à ce stade sur leur motivation. Jour de bac philo ou français demain et jour de grève à la SNCF. Il va falloir prendre de l'avance, compter 3 TGV sur 4. 3 TER sur 5, 2 Transiliens sur 3 et 1 Intercité sur 2. Des cars et des taxis de substitution sont prévus en gare et des trains stratégiques seront assurés. Le boom des coffee shops en France, ça ne plaît pas à la ministre de la Santé qui veut remettre de l'ordre. Aujourd'hui, des boutiques profitent d'une zone grise du droit, selon elle, pour vendre un dérivé du cannabis. Agnès Buzyn veut clarifier la loi. Et puis au mondial de football, le Brésil a ouvert le score à l'instant face à la Suisse, 1-0.
France Info.
Les informés, Chéric Bonneau.
Il y a trop d'équipes dans ce mondial, Mélodie Pépin, je vous comprends.
Ça ne va pas durer, effectivement.
Allez, où va le gouvernement sur le terrain social maintenant, après les propos d'Emmanuel Macron sur le pognon de dingue que coûtent les aides sociales à l'État et un début de cacophonie, à vrai dire, au sein du gouvernement. Le chef de l'État a prononcé un discours mercredi sur cette politique sociale, discours censé redonner de la cohérence, selon l'Élysée. Vous l'avez tous écouté, j'imagine, ce discours. Est-ce qu'il est de nature à clarifier la politique sociale du gouvernement, Hervé Gauthier?
On va voir.
C'est ce qu'on attendait, en tout cas.
Oui, enfin, pour l'instant, il a affiché une ligne ou une intention. Il n'y a pas de... Enfin, si, il y a eu quelques mesures d'annoncer, enfin, des intentions de mesures, hein, la création du cinquième risque, le reste à charge zéro, pour les prothèses dentaires, auditives, dentaires.
Les lunettes également,
mais,
ouais.
Bon, voilà, enfin, pour l'instant, on était plus dans l'intention. En même temps, c'est un peu normal, hein, c'est aussi le président de la République, il est là plus pour fixer un cap, et puis après, au gouvernement de gouverner, de faire des propositions.
Mais est-ce que ce cap est fixé, justement?
Est-ce qu'on sait? Moi, ce que j'ai trouvé, ce que je trouve, ce qui m'a choqué, ça n'a pas été tant le discours, ça a été cette vidéo assez incroyable qui a été diffusée sur Twitter quelques heures avant, enfin la veille, où on le voit en bras de chemise avec ses conseillers en train d'expliquer justement quelle est son idée derrière ça, dans un langage qui est pas du tout châtié là pour le coup, ouais. Qui est pas du tout un langage de discours, et on se dit c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le teasing, il fait la bande-annonce de son discours, il essaye d'expliquer pour ceux qui comprendraient pas son discours ce qu'il va dire le lendemain. C'était pas très clair. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le terme pognon de dingue. C'est un pognon de dingue, je crois, c'est ce qui a fait d'ailleurs la polémique. C'est un pognon de dingue qui est dépensé, mais par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à l'effet réel? Est-ce que c'est par rapport aux autres pays? Est-ce que c'est par rapport à la population? Si c'est par rapport aux autres pays, on est l'un des pays qui est le plus égalitaire au monde, hein, avec les pays du Nord, loin devant les États-Unis et la Grande-Bretagne. Si c'est par rapport à l'effet sur la France...
Emmanuel Macron nous dit pourtant que la France est beaucoup plus inégalitaire aujourd'hui qu'il y a 30 ans.
Mais non, mais ça n'est pas vrai. Si vous prenez par exemple le taux de pauvreté, on a 9 millions de pauvres. On dit, ah, c'est beaucoup, 9 millions de pauvres. Ça fait 14,2% de la population. C'est vrai, c'est beaucoup, c'est toujours trop, évidemment. Mais ça fait 20 ans que ça fait 14%. Alors, d'un côté, on peut se dire qu'effectivement, les systèmes de redistribution ont été insuffisants à diminuer la pauvreté. Mais on peut se dire aussi qu'ils ont été suffisants à empêcher la pauvreté de s'aggraver quand on a eu la crise économique. Donc, je comprends pas très bien ce que ça veut dire un pognon de dingue dépensé, quoi. Je crois que c'est surtout les choix de société, il faut les assumer ou pas, mais il faut le dire.
Alors
clairement.
Justement, François Hollenwein, quelle est la politique sociale du gouvernement? Je vous le demande.
Ben, n'est pas d'une clarté cristalline. On va dire des choses
autour de cette table.
Emmanuel Macron, il fait pas du social, il fait aussi de la politique. Et on s'interrogeait sur la vidéo et son discours. Moi, je pense que et cette vidéo et ce discours visaient à répondre à court terme aux injonctions qu'il avait subies venant de trois économistes qui avaient été très proches de lui et qui l'invitaient à réorienter sa politique. Or, pour préserver sa stature et son autorité, il n'allait pas répondre à l'instant à une injonction. Donc il a servi le discours standard sur les thématiques sont connues, il y en a qui profitent, ça ne permet pas aux gens de retrouver le chemin de l'emploi, etc. C'est des choses qui figent des états sociaux, ce qui n'est pas totalement faux non plus. Il y a une part de pertinence. Mais sur la question centrale qui est posée ici régulièrement le dimanche soir, est-ce qu'Emmanuel Macron peut continuer la politique qu'il conduit, qui a bâti autour de lui l'image du président des riches, sans la corriger tout le temps du reste de son quinquennat? Moi, je ne le crois pas. L'inflexion, la dynamique et tout ça ont été donnés dans la première année du quinquennat. Aujourd'hui, il est temps que le président de la République se préoccupe de ceux qui sont au bord du chemin.
Je vous propose juste d'écouter, puisqu'on a du mal à savoir ce qui se dit à l'Élysée, ce qu'en dit la ministre du Travail. Elle était ce matin l'invitée de BFM, ce qu'elle en dit sur cette politique sociale du gouvernement. Muriel Pénicaud.
Aujourd'hui, quelqu'un qui aurait ça, il y a simplement 9% qui va retrouver un emploi dans l'année. Alors bien sûr, les aides, ça sert à deux choses. Les aides, ça sert à la solidarité, et c'est une des fiertés du modèle social français, pour que tout le monde puisse vivre dans la dignité. Mais qui veut vivre dans la précarité toute sa vie? Qui veut vivre avec des aides toute sa vie? Ce qu'on veut faire, c'est aider chacun, si j'ose dire, à ne plus avoir besoin d'aide. Vous savez, c'est un débat qui est vieux comme l'humanité. Il y a un vieux proverbe chinois, bien inconnu, qui dit « Si quelqu'un a faim, tu peux lui donner un poisson, mais c'est mieux si tu lui apprends à pêcher. » Et je rajouterai « Si tu lui donnes la canne à pêche pour pouvoir pêcher. » Et ça, c'est l'outil qu'on donne
donc ça,
dans
c'est
la formation.
Vous avez...
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Virginie Legay, c'est ça la politique du gouvernement, ce proverbe chinois?
En tout cas, je ne sais pas où va le gouvernement. Je pense qu'on en saura plus en juillet lors de la présentation de la loi pauvreté. Moi, je note que cette vidéo volontaire, hein, parce qu'elle a été diffusée...
Cette opération de communication sur le...
Oui, elle a été diffusée par le service de presse de l'Élysée. Elle a un double but. Le but, c'est d'attirer l'attention des Français sur ce qui va être fait, parce que c'est violent, ça a été retweeté inlassablement pendant des jours et des jours. Donc tout le monde va suivre avec attention ce qui va se passer. Mais le but, c'est, comme le disait François, c'est de s'adresser encore et toujours à son aile droite. Mais Emmanuel Macron, il a bien compris que la personne à pulvériser, c'était Laurent Wauquiez, et derrière l'électorat de droite, mais l'électorat de gauche, il est déjà pulvérisé. Donc son ennemi reste toujours la droite, mais c'est son ennemi qui veut essayer d'attirer
et
de l'intérieur.
On va justement parler de la droite, encore beaucoup de sujets dans le classico. On se retrouve après la météo et l'info.
Jeudi 21 juin,
France Inter fête la musique à l'Olympia.
Avec, de 20h à 1h du matin,
Ben Harper,
Jane,
Eddie De Preto,
Parcells,
Camille,
Rougel
et un DJ set d'Arnaud Robotini.
France Inter fête la musique à l'Olympia.
En direct et en public.
À vivre jeudi 21 juin à partir de 20h sur France Inter.
Et sur franceinter.fr.
France Inter, une radio de Radio France.
Restez connectés à France Info sur tablette et smartphone. Téléchargez l'application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et abonnez-vous aux alertes pour ne rien manquer de l'actualité. Franceinfo.fr, c'est aussi votre site d'information en continu et des infos à partager sur tous les réseaux sociaux.
France Info. France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Jean-Michel Golinski à Météo France.
Demain, la carte du temps ne va pas beaucoup changer. On trouvera le soleil et la chaleur autour de la Méditerranée avec l'après-midi 28 à 30 degrés en général, jusqu'à 31 à Nîmes, 32 à Marseille et à Montpellier, avec un risque d'ondées l'après-midi des Alpes du Sud au relief corse et toujours du vent vers 70 km à l'heure dans le golfe du Lion et dans la vallée du Rhône. Sur le reste du pays, il faudra souvent attendre la mi-journée pour voir apparaître les premières trouées avec l'après-midi des éclaircies plus larges au nord de la Loire. La matinée, quant à elle, sera généralement partout bien chargée et parfois humide. Les températures de l'après-midi vont osciller entre 20 et 27 degrés, 27 prévus en Rhône-Alpes, il fera 23-25 dans le nord-est, du Limousin au centre, du Poitou-Charentes au Val-de-Loire, sur le bassin parisien et la Champagne, et 19 à 22 plus près de la Manche.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Le retour de l'info avec Emmanuel Langlois.
Avec cette première grosse surprise au Mondial 2018 de football, l'Allemagne, championne du monde en titre, qui s'incline face au Mexique. C'était tout à l'heure 1-0 à Moscou pour son entrée en lice dans la compétition. Maintenant, c'est le Brésil qui joue face à la Suisse. Neymar est sur la pelouse, Jérôme Val, et les Brésiliens logiquement mènent.
Oui, exactement. 1-0 depuis l'ouverture du score à la 20e minute de jeu. Extraordinaire frappe de Philippe Coutinho à l'entrée de la surface de réparation. Frappe qui allait frapper le poteau opposé. Poteau rentrant, le gardien suisse n'a absolument rien pu faire. Et c'est effectivement très très logique parce que la Seleção domine outrageusement cette première demi-heure ici à Rostov sur le Don, et notamment grâce à Neymar hein, qui sur son côté gauche est extrêmement remuant et qui subit énormément de fautes. Il est encore à terre le Parisien, mais pour l'instant le Brésil ne commet pas l'erreur de l'Allemagne et mène 1-0 face à la Suisse. On joue depuis 31 minutes de jeu ici à Rostov.
Jérôme Val en direct sur France Info, merci. La Serbie un peu plus tôt a battu le Costa Rica sur le score d'1-0, et puis après la grosse frayeur d'hier à Moscou en plein centre-ville, le conducteur de taxi qui a fauché des piétons sur un trottoir affirme avoir confondu le frein et l'accélérateur. L'accident a fait au moins 7 blessés en pleine Coupe du Monde de football. Une femme en garde à vue à la Seyne-sur-Mer dans le Var. Elle a blessé 2 personnes à coups de cutter à la caisse d'un supermarché en criant « Allah Akbar ». Les 2 victimes sont ce soir hors de danger. D'après le procureur, l'agresseuse était connue pour des faits de violence et psychologiquement déséquilibrée. Et puis un enfant de 5 ans a lui été fauché par une voiture, une Peugeot 307 bleu foncé. Ça s'est passé sur un passage piéton près d'Alès dans le Gard. Le conducteur est en fuite. Le pronostic vital de la victime est engagé. La gendarmerie lance un appel à témoins pour tenter de retrouver l'auteur de cet accident. Muriel Pénicaud affirme-t-elle que General Electric va devoir payer les pénalités pour ne pas avoir tenu son engagement en matière de création d'emplois en France. Dans le détail, d'après la ministre du Travail, le géant américain va débourser près de 34 millions d'euros au total si la situation n'évolue pas d'ici la fin de cette année 2018. Les talibans rejettent l'appel du président afghan Ashraf Ghani à prolonger le cessez-le-feu à l'occasion de la fin du mois du Ramadan. L'annonce a d'ailleurs été suivie peu après par un attentat suicide dans une province de l'est de l'Afghanistan qui a fait au moins 18 morts et une cinquantaine de blessés. Et puis ce duel inédit entre droite et gauche en Colombie au second tour d'une présidentielle cruciale pour la paix qui va désigner le successeur de Juan Manuel Santos, artisan du pacte historique avec l'ex-guérilla des FARC. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, suite et fin.
Les informés, Chéric Bonneau.
Et nous sommes toujours avec Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match, François Hernenwein, rédacteur en chef à La Croix, Hervé Gauthier, rédacteur en chef du service économie et sociale à France Télévisions, et Dominique de Montvallon, éditorialiste politique. C'était ce matin dans le journal Le Parisien. Elisabeth Borne nous parle de la grève à la SNCF, la ministre des Transports qui dénonce la grève politique de la CGT. Elle appelle les syndicats à revenir à la raison. C'est de nature à désamorcer le conflit. Ça, ses propos, Virginie Le Guay.
Mais il se désamorce, le conflit, non ?
À l'enterrer, j'allais dire.
Ah, il n'est pas encore enterré. Il se désamorce. En tout cas, le front syndical est largement fissuré. La CFDT se retire apparemment du jeu. Elle considère que ça y est. De toute façon, la loi est votée. Reste le plus jusqu'au-boutiste des syndicats qui dit qu'il pourrait prolonger la grève en juillet, mais qui risque de se heurter à une impopularité croissante. On voit bien que l'opinion publique, qui l'a soutenu un temps,
jour de grève demain.
Commence à trouver que ça a assez duré et que la réforme à laquelle elle était assez favorable, effectivement arrivée à son terme, et qu'elle a elle-même d'ailleurs pris en compte une partie des demandes des syndicats dans les amendements qui ont été ajoutés dans la loi au fur et à mesure de la discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc bref, la messe est dite, pardonnez-moi, et donc les syndicats jusqu'au boutiste, ils vont se retrouver, à mon avis, très isolés, et peut-être avec une audience interne, ouais, mais qui n'aura pas de portée dans l'opinion publique.
Dominique de Montvallon, c'est quoi la stratégie du gouvernement aujourd'hui au 32e jour de grève ? C'est de dire la SNCF en a trop fait, les syndicats en ont trop fait ?
Je pense que ce serait toute parole ou tout acte qui contribuerait à mettre maintenant de l'huile sur le feu, à être vécu comme une provocation gouvernementale, serait une erreur totale. Permettez-moi de dire une petite chose à titre totalement exceptionnel concernant la SNCF. Ma fille devait prendre tout à l'heure, c'est une considération familiale, le Douai-Paris.
On est ravis de...
Non, c'est pas ça.
Non, c'est un rapport. On embrasse votre fille, Dominique.
Non, c'est pas ça. Non, de temps en temps, c'est intéressant.
Mais oui.
Je revendique de ne pas être constamment dans les nuits.
Poursuivez, Dominique.
C'est bien. Le Douai-Paris, il y a tous les passagers qui devaient le prendre ont été prévenus de rien. Non mais c'est intéressant sur la
mais
situation
oui.
actuelle parce que il y a des mouvements qui échappent à toute consigne syndicale
et
à tout mot d'ordre de la direction de la SNCF. Et le train a été annulé. Voilà, aucune indication n'a été donnée. Maintenant.
Et votre fille est où en fait
non, non, vous inquiétez pas pour elle. De temps en temps, je le revendique. Quand il y a rarement l'occasion de parler autrement que dans les nuées, c'est intéressant. Voilà,
bon, c'est
je le dis comme ça.
Alors la SNCF nous écoute.
Non mais là, sur l'histoire, non, mais c'est ça de côté.
Mademoiselle de Montvallon est attendue sur le quai.
Vous seriez aimable de ne pas, parce que j'ai dit des choses concrètes où je vais prendre un petit peu mal. Évitez l'ironie. Non, mais l'ironie, elle est facile. Ok.
On va changer de sujet pour que vous
puissiez
rester.
Non, on va rester sur tout. Le problème, il n'est pas du côté du gouvernement. Le problème, il est du côté de la CGT qui est affolée à l'idée du scrutin professionnel ou très inquiète, soyons modérés, très inquiète à l'idée du scrutin professionnel à SNCF qui affronte le défi de l'extrême gauche. Mm-hmm. Le nom m'échappe du coup dans du syndicat. Sud, syndicat
Sud,
et qui maintenant ne sait plus comment s'en sortir En gardant la tête haute et en n'étant pas désavoué par la base.
Hervé Gauthier, en un mot.
Oui, moi je crois que sur la CGT, ça dépasse même carrément le conflit à la SNCF. La CGT, là où c'est politique, c'est qu'ils sont un peu en train de jouer, peut-être pas leur survie, il ne faut pas exagérer, mais enfin en tout cas une grande partie de leur avenir. Ça a été un échec sur la loi Travail 1 avec la loi El Khomri, ça a été un échec sur la loi Travail, la mobilisation sur la loi Travail l'été dernier, ça a été un échec sur la mobilisation sur la réforme de l'assurance chômage. Là maintenant, la réforme ferroviaire est passée, donc là, ils sont un peu dans une... Peut-être pas une fuite en avant, mais ils sont plus leaders dans les entreprises privées, la CFDT est passée devant eux, donc... Ils risquent d'être dans une crise interne et ils savent plus très bien, effectivement, comment se sortir de là. Oui, ça, c'est sûr.
Allez, on quitte le domaine des transports pour passer dans le domaine de l'énergie. On a entendu tout à l'heure la ministre du Travail sur le RSA. Muriel Pénicaud a également annoncé ce matin que le géant américain General Electric devra payer une amende, des pénalités pour les emplois qu'il n'a pas créés en France. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, General Electric s'était engagé à créer 1 000 000 d'emplois en France d'ici la fin de l'année en rachetant la branche énergie d'Alstom. Il n'en a créé que 323 et son PDG annonce que son engagement est hors d'atteinte. Hervé Gauthier, on va rester avec vous. On a déjà vu ce genre d'amende infligée à des grandes sociétés au motif qu'elles ne créaient pas assez d'emplois.
Alors là, je ne sais pas, j'en ai pas souvenir, mais faut pas donner plus d'importance que ça à cette amende, hein, 50 000 euros par emploi. Si demain, et on n'est pas encore au 31
ça peut
décembre,
faire 34 millions d'euros si la situation
évolue. Oui, ça fait. Oui, mais vous savez quel est le chiffre d'affaires de General Electric? Oui. L'an dernier, il était de 122 milliards d'euros. Donc 34 millions d'euros, c'est même pas un pourboire, c'est rien du tout pour eux. Donc voilà, on est dans la symbolique des choses. C'est pas ça qui est le plus important. Et puis, en revanche, alors le problème, c'est qu'évidemment, on croit les promesses qui ont été faites, puis après on dit ah oui c'est scandaleux finalement, c'était un marché de dupes. C'est peut-être pas si vrai que ça. C'est vrai que la conjoncture s'est un peu retournée pour General Electric. C'est vrai qu'il y a la concurrence chinoise. Le problème en fait, c'est que on passe ce type d'accord avec des entreprises, qu'on leur demande de s'engager sur des engagements qu'elles peuvent pas forcément tenir, et après on essaie de faire croire qu'effectivement ça va marcher, et on se rend compte que c'est pas le cas. Il y a des fois où ça a marché. Hein. Faut se rappeler quand même que ArcelorMittal par exemple, ils s'étaient engagés à réindustrialiser le site de Florange. Ils ont mis 270 millions d'euros dedans. Il y a 2000 salariés aujourd'hui qui travaillent encore sur le
site. François Hernenwein, est-ce que c'est pas contre-productif finalement de... Ça va pas inciter d'autres entreprises, ou en tout cas dissuader d'autres entreprises à venir s'installer en France, ce genre d'amende?
Non mais on va faire du droit un instant. Il y a un contrat qui a été signé au moment de la vente, et ça c'était une clause du contrat. Alors on peut considérer que le droit, on en fait quand ça arrange, et on n'en fait plus quand ça arrange plus. Bon. Mais là, je pense que GE, pour dire les choses clairement, a pu racheter la branche énergie. D'ailleurs, la vraie discussion ne doit pas porter sur le contrat, mais sur ce qu'a signifié le dépeçage d'Alstom. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, GE, pour avoir la branche énergie, s'était engagée là. Elle n'a qu'à respecter ses engagements.
On va parler de Carrefour juste après l'info. Il est
20h40,
le dit Pépin.
À partir du 1er juillet, on roule moins vite, 80 km/h au lieu de 90 sur 40% du réseau routier. Toutes les deux fois, une voie sans séparation sont concernées. Le Premier ministre a signé le décret aujourd'hui. Cela doit permettre de sauver 300 à 400 vies par an, selon Édouard Philippe. Acte de démence ou terroriste, c'est ce que cherchent à savoir les enquêteurs après qu'une femme a agressé au cutter deux clients d'un supermarché à la Seine-sur-Mer dans le Var ce matin. Selon le procureur, elle a dit que c'était Allah qui lui demandait de faire ça. Psychologiquement déséquilibrée, elle n'était pas connue des services de renseignement. Elle est toujours en garde à vue ce soir. Ils ont marché un mois et demi pour soutenir les migrants, des marcheurs solidaires et citoyens partis de 26 000 près de l'Italie. Les voilà à Paris, une étape seulement avant une arrivée à Calais début juillet. Ils protestent contre le blocage des frontières et le délit de solidarité. Le second tour de la présidentielle aujourd'hui en Colombie, élection cruciale pour la paix, première élection depuis le pacte historique avec l'ex-guérilla FARC et première fois qu'un candidat de gauche atteint le second tour, Gustavo Petro. Face à lui, le favori et champion de la droite dure, Iván Duque. Et puis la fin d'une malédiction aux 24 heures du Mans. Toyota, le constructeur nippon, s'est enfin imposé sur le circuit de la Sarthe après 20 participations.
France Info.
Les informés, Pierrick Bonneau.
Le groupe Carrefour donc est son ancien patron qui renonce à son indemnité de départ. 3 900 000 euros, une somme que le gouvernement avait jugée choquante et qui correspond en fait à une clause de non-concurrence que l'ex-PDG avait signée alors qu'il a 68 ans et qu'il en fait très peu de chance de retravailler pour un autre grand groupe. On sent bien que le gouvernement a fait plier Carrefour dans ce dossier. Virginie Leguet, c'est l'impression que vous avez sans le gouvernement, cet ancien PDG aurait gardé son indemnité de départ ?
En tout cas, l'indemnité de départ lui était acquise par contrat, donc et l'entreprise s'y était engagée. Donc le gouvernement effectivement est intervenu, et le gouvernement est intervenu dans un contexte qui pour lui était très important. Il s'agissait aussi de se dégager de cette idée que il ne s'intéresse qu'à protéger les très riches et qu'à finalement alourdir la situation des moins riches. Donc là, il fallait un petit peu rétablir l'équilibre, au moins dans l'esprit des Français, je pense. Donc cette histoire-là est tombée à point nommé, lui a donné un bon alibi pour intervenir.
Dominique de Montvalon, c'est politique, encore une fois, cette réaction du gouvernement.
Mais vous avez dit qu'il avait renoncé contraint et forcé, puisqu'il y a une intervention de Bruno Le Maire, le PDG sortant, enfin l'ex-PDG de Carrefour avait renoncé à la prime de non-concurrence et que son âge et les conditions, etc., ne permettaient pas de rendre plausible l'idée qu'il allait se reclasser. Mais il y a une autre raison qui est centrale, c'est l'état dans lequel ce monsieur, cet ancien PDG, a laissé Carrefour. Il n'y a qu'à écouter aujourd'hui à la fois son successeur et le ministre de l'économie, qui n'est pas spécialement un marxiste tous azimuts, hein, Bruno Le Maire, mm-hmm. pour la description qui est faite de la situation de Carrefour et le plan de restructuration qui a été décidé. L'idée que un PDG aussi honorable qu'il puisse être par ailleurs, mais puisse être gratifié d'une prime de réussite en quelque sorte au moment où il abandonne à son successeur une entreprise dans un état pareil, c'est absolument scandaleux. Ça aurait été scandaleux. Heureusement, il y a renoncé.
Oui, je vais faire encore l'avocat du diable, parce que j'aime bien le faire. Non, mais d'abord, c'est vrai que Bruno Le Maire a eu raison de réagir comme ça et de réagir très fortement. Et c'est vrai que, franchement, ça avait quelque chose d'assez cynique au moment où il y a tous ces magasins qui ferment et tous ces gens qui vont se retrouver au chômage. De voir des sommes pareilles, ça donne quand même un sacré vertige. Puis après, quand même, juste pour pondérer le propos, il faut pas oublier que il faut pas être trop ethnocentré, notamment par exemple en ce qui concerne la rémunération des grands patrons. Il faut pas oublier que les grands patrons français sont nettement moins payés, par exemple, qu'aux États-Unis. Mm-hmm. Or, le Carrefour est un groupe mondial. C'est un groupe mondial, c'est un très grand groupe, un groupe extrêmement important de grande distribution. Et donc voilà, les rémunérations, elles donnent le vertige et on peut s'en plaindre, on peut trouver ça absolument scandaleux. Moi, je pense que ça l'est, mais il faut comparer ce qui est comparable. Et si on le met ensuite dans le pot commun de la rémunération des grands patrons dans le monde, bah finalement, c'est pas si choquant que ça. Vous après, avez ça n'enlève rien à ce que Dominique disait à l'instant. Non, je suis tout à fait d'accord.
Vous avez parfaitement raison. Enfin, en tout cas, j'adhère complètement à votre analyse. Mais en l'occurrence, ce qui a été mis en cause et ce que je me permettais modestement de relayer, c'est en quelque sorte la prime de réussite. Hein. Il ne part pas
ça, c'est sûr.
Avec rien dans les poches. Légitimement, il part avec des sommes qui sont considérables et méritées.
Il lui reste 14 millions d'euros, me semble-t-il.
Oui. Pardon ?
Il lui reste 14 millions d'euros.
Oui, je crois que ce n'est pas négligeable.
François Ardenwein.
Ben, d'une seule formule, puisque c'est à la mode, le pognon de dingue, il est là. Quand on voit les sommes, les résultats obtenus, il y a quelque chose de dingue.
Mais ça donne une indication sur l'orientation politique du gouvernement, ce genre de réaction de Bruno Le Maire.
Ben, à mon
avis, que le gouvernement n'essaie pas de donner des gages, justement à...
Mais si, mais...
C'est du bon sens, hein, c'est peut-être pas juste un calcul.
Si le président de la République s'en prend au pognon de dingue des aides sociales, il est normal qu'une semaine après, quand on voit circuler ces chiffres, le ministre de l'économie, au moins, s'en prenne à ce pognon de dingue. Ça rétablit tendanciellement l'équilibre.
Bruno Le Maire demande des mesures fortes au patronat pour éviter que ce genre de cas se reproduise. De quelles mesures peut-il parler, Virginie Leguet ?
Je ne sais pas. En tout cas, j'attends avec curiosité de connaître les conditions qui probablement vont être négociées de départ de son successeur. Parce que le successeur, Monsieur Bompard, si je ne me trompe, a déclaré que lui-même se montrerait très raisonnable. J'attends de voir s'il va vraiment être très raisonnable ou si finalement on oubliera, mais que ce qui va négocier là, ou ce qui est peut-être déjà négocié, ne sera pas très très équivalent à ce qui vient de se passer là, parce que on voit bien que à chaque fois qu'il y a une indemnité de départ qui est révélée, tout le monde pousse des grands cris, puis finalement tout le monde reprend ses habitudes jusqu'à la prochain petit scandale, mais rien ne change.
Il y a une charte oui, de bonne conduite déjà au MEDEF qui a été, parce que c'est la première fois qu'on a ce genre de problème, et donc ça existe déjà, mais après
pas très respecté là.
Il y a juste une chose qu'il faut pas oublier, c'est que le patron des patrons, quand on parle du patron du MEDEF, ça n'est qu'une image. Il n'est pas le patron des patrons, il est le patron d'un syndicat patronal, voilà, mais il n'a pas autorité sur la rémunération des patrons d'entreprise.
Non, mais c'est une indication quand même de la valeur de ces chartes et des engagements qu'elles contiennent. On signe des documents, des déclarations d'intention, et la pratique dément sans cesse les intentions proclamées. Au bout d'un moment, il faudra que le législateur, qui aime bien légiférer sur les prestations sociales, légifère éventuellement sur les indemnités de licenciement.
Prenez acte patrons. Quand même que
Dominique de Montvalon,
sous la pression du ministre, il a renoncé à une partie des rémunérations qui allaient lui revenir.
Mais oui, c'est un fait. On a dit tout à l'heure que ça marquait un rééquilibrage.
Ouais. Est-ce qu'il faut légiférer? Je vous repose la question. Hervé Gauthier, grand silence.
Oui, grand silence. Pourquoi grand silence? Parce que là, répondre à une question comme ça.
Mais est-ce que la loi peut contraindre une entreprise?
La réponse, elle est forcément politique. Vraiment. Au sens noble, du terme, de politise, de la vie de la cité. C'est-à-dire que là, dire on va légiférer sur la rémunération dans les entreprises privées des grands patrons, c'est une position qui est politique. Répondre oui, ça induit quelque chose. Répondre non, ça induit autre chose. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment à des journalistes de répondre à cette question-là. Mais c'est aux politiques de se saisir du débat, certainement.
Non, socialement, ça me semble souhaitable. C'est peut-être pas des journalistes, mais on a le droit d'avoir un point de vue citoyen. Ou une analyse sur ce qui est bon ou mauvais pour la société.
Virginie, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Non, je pourrais peut-être simplement dire que je vois mal Emmanuel Macron légiférer sur ce sujet-là, mais je me trompe peut-être, il le fera. Mais je le vois mal aller jusque-là de façon coercitive, parce qu'il s'agira bien de ça. Aussi, ouais. Il s'agira de contraindre une entreprise ou les entreprises à ne pas dépasser, un ratio entre le plus bas salaire et le plus haut salaire, selon la taille de l'entreprise. Enfin, je ne sais pas comment ça peut se faire.
On peut légiférer ou pas, mais il serait bon que ceux qui sont objectivement les supporters, les soutiens et les incarnations de la société libérale sachent d'eux-mêmes se comporter correctement de façon à ne pas créer un effet répulsif auprès de l'ensemble de leurs concitoyens.
Ça, c'est dans un monde pur et parfait. Ah. On a parlé tout à l'heure de la charte, on voit bien quelle a été sa destinée.
Elle a compté un peu, mais pas suffisamment.
Voilà. On est bien d'accord.
Allez, on va parler des Républicains dans une minute sur France Info. Il est 20h50, Mélodie Pépin nous a rejoint pour l'info.
C'est l'un des favoris de ce mondial de football. Le Brésil mène 1-0 à la mi-temps face à la Suisse. L'exploit du jour, c'est au Mexique qu'on le doit. Vainqueur de l'Allemagne, championne du monde en titre, 1-0. Et puis des Bleus ES déjà championne du monde en rugby. Les moins de 20 ans ont remporté pour la première fois le championnat du monde en battant l'Angleterre. Médecins sans frontières dénonce le traitement dégradant infligé aux migrants après l'errance de l'Aquarius pendant une semaine. Les 630 migrants que l'Italie a refusé d'accueillir ont finalement débarqué à Valence, en Espagne, ce matin. La France propose d'en accueillir une partie. General Electric devra payer des pénalités. C'est la ministre du Travail qui le dit. Aujourd'hui, le groupe américain qui a racheté Alstom a annoncé la semaine dernière qu'il ne pourrait pas tenir sa promesse. Créer 1000 emplois d'ici la fin de l'année. Seuls 323 postes ont vu le jour. L'amende pourrait s'élever à 34 millions d'euros. Dispositif spécial demain dans les gares SNCF pour permettre aux élèves d'aller passer le bac puisque c'est une journée de grève. Des trains stratégiques seront assurés, des bus et des taxis de substitution sont prévus. Voici les prévisions de trafic. La moitié des intercités et 3 TER sur 5 en circulation, 3 TGV sur 4 et en Ile-de-France, comptez 2 Transiliens sur 3.
France Info.
Les informés, Pierrick Bonneau.
Une semaine agitée de plus vient de se terminer chez les Républicains. La numéro 2 du parti, Virginie Calmels, a vertement critiqué le management
du président du parti, de Laurent Wauquiez, du numéro 1 à l'origine de dysfonctionnements, selon elle. Virginie Calmel s'évoque des réunions surréalistes entre les cadres du parti. Il n'y a pas, selon elle, un maître et un élève au sein du parti. Que se passe-t-il chez les Républicains ? Dominique de Montvalon.
Il y a deux problèmes, à mon avis. Il y en a probablement plus, mais moi, j'en vois deux. La personnalité de Laurent Wauquiez, avant qu'il n'accède à la présidence des Républicains, au fond, les Français ne le connaissaient pas beaucoup. Aujourd'hui, ils ne le connaissent pas énormément plus, mais néanmoins, ils se posent des questions considérables. Enfin, considérables, ils ont d'autres préoccupations, mais enfin, qui est Laurent Wauquiez ?
Je vais mettre de l'eau dans votre moulin. On vient d'apprendre que Virginie Calmes avait été limogée à l'instant par...
Ça, c'est intéressant.
Par Laurent Wauquiez. Elle est remplacée à son poste de numéro 2 par Jean Leonetti. Voilà.
Oui, j'insiste sur le fait qu'on décidément on connaisse... Alors, il y a la personnalité de Laurent Wauquiez. Bon, c'est un mystère. Mais il y a d'autre part la stratégie. Sa stratégie avec une simplicité désarmante et un peu ingénue. Il a expliqué à peine élu que son objectif était que le Front National, l'électorat du Front National allait exploser et se dissoudre et que son objectif était d'occuper le terrain et de faire venir les électeurs du Front National à lui.
François
c'est une trahison. Je dis deux choses. Stricto sensu, c'est une trahison. Du credo de la droite modérée, de la droite républicaine libérale qui est normalement ce qu'il doit représenter. Et c'est d'autre part un pari totalement aventureux. Il n'y a qu'à voir les scores dont sont crédités aujourd'hui les dirigeants du Front National.
François Hollenwein, Jean Leonetti qui débarque donc à ce poste de numéro 2 à la place de Virginie Calmels. Il fallait la limoger, Virginie Calmels. C'était une façon pour Laurent Wauquiez d'asseoir son pouvoir sur le parti.
J'ai beaucoup d'estime pour Jean Leonetti qui a fait un travail parlementaire assez remarquable sur un certain nombre de sujets de bioéthique. Donc, respect à Jean Leonetti. Sur Virginie Calmels, cette chose-là devait arriver. La gouvernance de Laurent Wauquiez est telle, la ligne qu'il imprime aux Républicains est une ligne quasiment répulsive pour des gens de la droite libérale plus traditionnelle comme Virginie Calmels. Mais moi, dans le pari perdu de Laurent Wauquiez, ce qui m'obsède, c'est qu'il n'ait pas compris qu'il y avait un espace politique en France pour un courant conservateur...
Évidemment.
Défendant un certain nombre de valeurs dans la société française, combattant les audaces libérales et éventuellement libertaires d'Emmanuel Macron, il y avait tout à fait un espace. Et il s'est engouffré, non pas dans la pente conservatrice, mais dans la pente réactionnaire. Or, cette offre en France aujourd'hui, qui est une démocratie apaisée, ne mord pas. Et j'aurais envie de dire... Parce que ce qui est frappant chez Laurent Wauquiez, c'est la qualité de son parcours académique. Il a été major de l'ENA, alors ce n'est pas le maître étalon de toutes les réussites, mais c'est quand même une indication. Il a fait normal sup, etc. Comment est-ce qu'avec une formation initiale d'une telle qualité, on arrive à un parcours politique aussi déplorable? Et c'est à dessein que j'emploie le mot, parce que ce que j'ai décrit là, à ma modeste place, la capacité à mesurer dans l'opinion ce qui relève du conservatisme et qui est un espace légitime. En Grande-Bretagne, il y a une grande tradition conservatrice, en Allemagne aussi.
Évidemment.
On peut très bien faire les choses. Pourquoi il s'est engouffré dans cette voie réactionnaire et à ce point réactive par rapport à la gouvernance
des Allemands. Et dans ce registre, les Français préfèrent, et pas seulement eux, préfèrent toujours l'original à la copie. Vous voyez à quoi je fais
allusion. Hervé Gauchot, c'est la ligne politique de Laurent Wauquiez, c'est pas le personnage.
Je pense que c'est les deux. D'un côté, on a un Wauquiez qui est tout seul, et de plus en plus seul, puisque maintenant Virginie Calmels n'est plus là non plus, et puis ceux qui avaient le plus vite compris l'orientation de la des Républicains sont partis à La République En Marche où ont créé les Constructifs. Il reste encore quelques-uns qui essayent de ferrailler de l'intérieur, des Xavier Bertrand, des Jean-François Copé, Valérie Pécresse, etc. Mais enfin, on voit bien qu'il est tout seul et puis qu'il tient à le rester. Et ça, c'est pour l'aspect du personnage, ce qu'on appelle le management. Et puis après, il y a effectivement les idées. C'est le tract pour que la France reste la France. C'est les discussions avec Thierry Mariani, avec des rapprochements derrière du Rassemblement National, puisqu'on dit plus Front National. Demain soir, il est en réunion publique à Lyon avec Sens Commun. Enfin, voilà, on voit bien les orientations politiques. Et là, pour le coup, il devrait se méfier, effectivement, parce que c'est les européennes l'année prochaine, et qu'il va avoir du mal à aller vers la présidentielle vers laquelle il souhaiterait aller, apparemment.
Virginie, est-ce que le départ de cette numéro 2 du parti va arranger les choses? Est-ce que ça va calmer cette crise?
Ça va durcir encore plus la ligne de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, il a fait un pari cynique en arrivant. Il a considéré que, comme l'aile, disons, centriste de la droite était déjà acquise à Macron, il lui restait le noyau dur. Avec le noyau dur, il allait bien sûr garder son emprise sur lui. Je rappelle qu'il a été assez bien élu, Laurent Wauquiez, à la tête des Républicains. Mais qu'en plus, il allait siphonner l'électorat du Front National, comme Dominique l'a dit.
Jean Leonetti est plus sur cette position politique.
Jean Leonetti, il est extrêmement centriste, extrêmement européen. Oui. Il a 30 ans d'expérience politique, il incarne, j'allais dire, le visage classique de la droite modérée, rassembleuse
et libérale.
Exactement.
Il faudra voir la place qui lui sera laissée.
Et Laurent Wauquiez, là, fait un pari, effectivement, il assoit son autorité, il essaie d'assouplir frontalement, visuellement, sa ligne en nommant Jean Leonetti. À mon avis, ça va pas durer longtemps, parce que je le vois mal tout d'un coup braquer sa voiture dans le sens de Leonetti. Mais je rappelle que Jean Leonetti était une des têtes de liste possibles pour les européennes. Le nommer là, c'est aussi une façon de le tuer pour les européennes, me semble-t-il.
Voilà, ce sera la conclusion. Merci à vous quatre. Virginie Le Guay, chef adjointe du service politique de Paris Match. François Hernenwein, rédacteur en chef à La Croix. Hervé Gauthier, rédacteur en chef du service économie et sociale de France Télévisions. Et Dominique de Montvallon, éditorialiste politique. On n'a pas eu le temps de parler du baccalauréat, mais bonne chance aux 750 000 candidats qui vont prendre la route des centres d'examen à partir de demain. Bonne soirée.